Les racontars de Citrouille Amère. 10 minutes pour une œuvre d'art.
Blilp et Radio. Blilp et Radio.
Bonjour. Et voilà. Encore un nouveau racontar de Citrouille Amère. Le sujet de cette séance fait dans la démesure. Oui, oui, dans la démesure. Jugez un peu. Une surface de 70 mètres carrés, 130 personnages, un Christ, une Vierge, des apôtres, une mariée, 5 musiciens, 3 chiens, 2 chats, un perroquet, plus de 10 oiseaux en vol, des monceaux de vaisselle raffinée, des carafes et des verres en cristal, des hectolitres de vin, des litres de parfum et pas de raton laveur. Le tableau est pris dans une architecture antiquisante avec des colonnes, chapiteaux et entablements. Colonnes à chapiteaux doriques pour la base, puis ioniques avec des volutes et tout en haut des colonnes corinthiennes avec des feuilles d'acanthe. Ainsi, l'ordre des colonnes respecte le canon du livre d'architecture de Vitruve, l'unique ouvrage d'architecture à nous être parvenu de l'Antiquité. Le tableau s'organise en deux grandes bandes horizontales, séparées par une balustrade. Dans le registre inférieur, les convives sont disposés autour d'une table en U. Elle est couverte d'une nappe blanche. Elle croule littéralement sous une vaisselle précieuse, la verrerie de cristal et les mets raffinés. Une cohorte de serviteurs s'affaire autour des convives. Le centre du premier plan est occupé par 5 musiciens. Juste au-dessus des musiciens, le Christ, la tête auréolée, est vêtu en rouge et bleu. À sa droite, la Vierge, elle, semble refermer sa main sur un verre absent. De part et d'autre du groupe du Christ et de Marie, les apôtres Pierre et Paul. Au-delà de la rambarde, des serviteurs s'activent à découper une pièce de viande à grands coups de tranchoir. Derrière le boucher, un serviteur emporte une assiette de viande. Sur la droite du tableau, d'autres servants passent entre les colonnes pour entrer dans l'espace de service. Ils portent sur leurs épaules une énorme pièce de boucherie. Le registre supérieur est occupé par une vue sur un ciel bleu avec des cumulus de beau temps. Ce ciel est pris entre deux grandes architectures. Les étages supérieurs sont envahis par une foule de curieux attirés par le spectacle de la noce. Mais où est donc la mariée ? Bien que richement vêtue, la malheureuse est reléguée au bout de la table à l'extrémité gauche du tableau. Ses voisins de gauche, un homme et une femme, plongent un regard gourmand dans le décolleté de la jeune épousée, dont l'époux semble déjà se désintéresser. Les noces de Cana, huile sur toile, 6,77 par 9,94 mètres. Paul Véronèse, 1563, Musée du Louvre, Paris. Le tableau est commandé en juin 1562 par le monastère de San Giorgio Maggiore de Venise. Le tableau sera exécuté en un peu plus d'un an. Dans le contrat, il est précisé, le tableau doit contenir autant de personnages qu'il sera possible. Certainement une requête de Véronèse. Les dimensions du tableau sont fixées pour occuper la totalité du mur destiné à le recevoir. Les noces de Cana entrent dans les collections françaises à la signature du traité de Campofornio en 1797. Pour le ramener en France, il va être découpé en 6 bandes. L'Autriche est la puissance tutélaire de Venise. Elle réclame en vain le retour du tableau à Venise. Le tableau reste dans les collections du Louvre grâce aux efforts de Dominique Vivant de Non, premier conservateur du nouveau musée du Louvre. Pendant la guerre de 1870, le tableau est caché dans l'arsenal de Brest. L'année suivante, il revient au Louvre. En 1939, les noces de Cana sont envoyées dans une caisse sur un camion de la Comédie-Française vers le château de Chambord. Ensuite, il ira un temps à l'abbaye de Locdieu et finalement, en 1942, il retrouve sa place au Louvre. À la Libération, l'œuvre est déclarée en bon état. Elle ne semble pas avoir souffert de tous ces transports et manipulations. Au début des années 1990, les noces de Cana sont restaurées. L'événement est très médiatisé. L'opération se déroule sur un échafaudage en présence du public. Après 2 ans de travaux, l'équipe de 6 restauratrices mène à bien la restauration. La réussite est absolue. Malheureusement, à la fin des travaux, une manipulation provoque la déchirure de l'œuvre en plusieurs endroits. En 2007, Arnaud Klarsfeld et Carla Bruni militent pour faire retourner l'œuvre à Venise. L'opération se solde par un échec. Mais l'œuvre est numérisée à très haute définition. L'opération se déroule de nuit, sous la surveillance de 2 gardiens du musée. Après numérisation, le tableau est imprimé en Espagne sur une imprimante spécialement construite pour l'occasion. Finalement, le 11 septembre 2007, le fac-similé est inauguré en grande pompe au monastère de San Giorgio Maggiore de Venise. Les 130 personnages du tableau, on peut reconnaître l'écrivain vénétien Pierre Larrétin, un contemporain de Véronèse. Les musiciens du premier plan ont donné lieu à une hypothèse séduisante, mais aujourd'hui contestée. En effet, certains ont identifié les musiciens avec des peintres contemporains de Véronèse. Véronèse lui-même est avec la viole à archer. Bassano tient un cornet droit, Tintoret est avec une petite viole soprano, enfin Titien avec un violon à la main. Le musicien assis derrière Véronèse a été identifié récemment comme Diego Ortiz, le maître de chapelle du royaume de Naples. Le moment représenté par Véronèse est la réalisation du premier miracle du Christ. La transformation de l'eau en vin. Le tableau est fidèle à l'événement relaté dans l'évangile de Jean 2:1, mais Véronèse a transposé l'épisode biblique dans la Venise de son époque avec une débauche de luxe. Les éléments architecturaux sont inspirés de la construction de Palladio, le très célèbre architecte vénitien. Un sablier posé sur la table entre les musiciens est une évocation du temps qui passe. Il sous-entend « le temps perdu ne se rattrape jamais ». Le miracle de la transformation de l'eau en vin, ce premier miracle marque l'entrée du Christ dans sa vie publique, mais également le passage de l'Ancien Testament au Nouveau. La transformation de l'eau en vin annonce aussi un autre miracle, celui de l'Eucharistie, la transformation du vin en sang du Christ. Au centre du tableau, au-dessus de la tête du Christ, un serviteur débite ce qui pourrait être un agneau, une évocation de l'agneau mystique, sacrifice de Pâques. Enfin, un homme porte sur ses épaules un animal mort disposé sur une planche, qui évoquerait une vision prémonitoire de la mise au tombeau du Christ. Une décennie plus tard, Véronèse réalise un tableau aux dimensions proches des noces de Cana, pour les dominicains de l'église San Giovanni e Paolo de Venise. Ce tableau a pour thème la scène, le dernier miracle du Christ. Ainsi, la boucle est bouclée. Les dominicains jugent le tableau non conforme à l'orthodoxie de l'église d'alors. Ils dénoncent Véronèse à l'Inquisition. Véronèse joue l'ignorance. Il sera condamné à amender le tableau. Véronèse, avec malice, renomme le tableau de la Seine en dîner chez Lévy. Le tableau, confisqué par les armées napoléoniennes, séjourne 11 ans au Louvre avant de retourner à Venise, au musée de l'Accademia. Ce racontard s'achève sur ces tableaux de la démesure, miroir de la société du XVIe siècle. Marie, Quentin, grand merci pour avoir permis la réalisation de cette belle émission. Quant à nous, j'espère vous retrouver le mois prochain.
BLP Radio. BLP.